Mercredi 17 mai 2017, Radio Grenouille était au mercredi de Montevideo avec Noé Soulier, chorégraphe, qui présentait Action, Mouvement et Gestes, un livre publié aux éditions Carnet, Centre National de la Danse. Noé Soulier est déjà venu à Marseille, il est venu à Marseille en 2013 dans le cadre d'une exposition à la Friche Belle de Mai, et il y avait réalisé une performance qui n'est pas sans lien avec ce livre qui va être présenté ce soir. Il était venu aussi au Festival Actoral en 2014, je crois, pour Mouvement sur Mouvement. Noé Soulier est donc chorégraphe, il a une formation de danse classique et puis une formation philosophique aussi, et une formation à la danse contemporaine à l'école Partz à Bruxelles, une école dirigée par Anne-Thérèse de Kersmaeker. Juste quelques petits mots sur ce livre, mais Noé le présentera plus longuement lors de son intervention et puis après on aura une discussion. Donc un livre qui propose de multiples façons, au fond, d'observer une œuvre chorégraphique. C'est un livre qui porte sur notre attention ou ce qu'on observe lorsqu'on regarde un spectacle de danse. Et pour ce faire, Noé Soulier déplie une sorte de pensée que je qualifierais d'analytique ou de découpage. Par exemple, les actions sont pensées à partir des catégories de fin, de finalité, de but, de conséquences, mais aussi d'intention, les actions que l'on voit sur scène. Et ce découpage va lui permettre de distinguer différentes façons de percevoir un mouvement. Mais ces façons de percevoir un mouvement, c'est aussi différentes façons, d'une certaine manière, après, de les vivre, ces mouvements. Alors, c'est un livre sur les différents modes de regard qui propose par conséquent des parties pris possibles sur l'observation d'un spectacle de danse, d'une œuvre, et qui part de la pratique, de l'expérience, selon son mode d'appréhension. Et ces différents modes, Noé Soulier les appelle des concepts de danse. En cela que ces concepts donnent des points de connaissance qui vont affecter la manière dont ensuite on va faire l'expérience d'un mouvement. C'est cela qui est particulièrement intéressant, c'est que le fait d'avoir une connaissance sur ce mouvement va affecter la manière dont ensuite on va l'éprouver. Ainsi, et c'est ce qui est remarquable dans ce livre, on s'aperçoit alors qu'on n'éprouve pas le même mouvement selon une approche, par exemple, qui serait géométrique ou une approche qui serait mécanique. Ainsi, un même mouvement peut être modifié dans sa qualité s'il a une approche dite géométrique ou une approche, par exemple, dite mécanique. C'est cette différence qui s'inscrit à l'intérieur d'un même mouvement, une différence qui n'est pas la différence de la répétition, mais liée à la manière dont on va l'appréhender, l'approcher, le concevoir. Donc voilà un peu l'enjeu de ce livre. Noé va le déplier beaucoup plus amplement et ensuite on aura une discussion ensemble sur ce livre. Merci Noé Soulier d'être venu ce soir.
Donc en fait, je vais essayer de déplier un petit peu les grandes lignes du livre. Et c'est le résultat d'une recherche qui a commencé en fait déjà quand j'étais à Partz. Et à Partz, par exemple, on a fait un atelier où on a appris la pièce de Trisha Brown, Set and Reset. Et avant d'aller à Partz, j'avais fait principalement de la danse classique. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal, au début du moins, à exécuter la phrase de mouvement qui est à la base de cette Reset. J'arrivais pas à obtenir la bonne qualité de mouvement. C'était pas qu'il y avait un mouvement en particulier qui soit très très difficile à exécuter. C'était tous les mouvements où il y avait une qualité de mouvement que j'arrivais pas à obtenir. Et c'était assez frustrant, et donc ça m'a pas mal travaillé. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que si j'arrivais pas à obtenir cette qualité de mouvement, c'est parce que j'avais perçu cette phrase de mouvement au départ à travers ce qu'on pourrait appeler l'œil de la danse classique, ou le regard du moins de la danse classique. Et je vais affiner un peu, mais pour schématiser vraiment, dans la danse classique, les mouvements sont définis de manière géométrique par des courbes, des lignes, des vecteurs, tandis que dans cette Henry VII, ils sont davantage définis en termes mécaniques, c'est-à-dire avec un corps qui a une masse et qui est soumis à des forces, l'inertie, la gravité et la force musculaire. Alors ça paraît très très simple comme ça, mais quand on apprend ces différentes, quand on pratique ça, la danse classique, où on s'est jamais enseigné de cette manière-là. Disons que si vous allez prendre un cours de danse classique, on ne va pas vous dire bah, maintenant vous allez faire une pratique qui est fondée sur des paramètres géométriques. Et pareil chez Trisha Brown, c'est pas forcément explicité. Et d'ailleurs, moi, avant de me confronter à cette Henry VII, j'avais pas du tout conscience d'avoir un mode d'approche du mouvement particulier. Pour moi, c'était le mouvement en général. C'était le mouvement par défaut. Et c'est uniquement en se confrontant à une pièce ou à une pratique chorégraphique où ce mode d'appréhension du mouvement échouait que je me suis rendu compte que j'en avais un. Enfin, que je me suis rendu compte qu'ils existaient même, disons. Avant, c'était complètement inconscient. Et donc, c'est là où ça devenait intéressant de percevoir ces modes d'appréhension du mouvement qui ont une histoire, qui sont situés historiquement, socialement, etc., mais dont on n'est pas forcément conscient. Enfin, en tout cas, moi, dont je n'étais pas conscient. Et qui, dans la pratique elle-même, restent le plus souvent sous-jacents, implicites, qui ne sont pas explicités. Et donc, je me suis demandé comment justement les expliciter. Et ce n'est pas simple, parce que c'est difficile d'expliciter quelque chose qui est implicite au sein d'une pratique sans le trahir, enfin, en allant vraiment saisir ce qui se joue là-dedans. Et donc, dans le livre, je propose une méthode pour faire ça, qui s'appuie sur une distinction qui vient du philosophe Peirce, Charles Sanders Peirce, un philosophe pragmatique américain, fin 19e, début 20e, qui est une distinction assez courante en philosophie, entre type et occurrence. Donc un type, c'est une entité abstraite, et une occurrence, ça peut être un objet, un événement, et ce sont tous les objets et les événements qui relèvent de cette entité abstraite. Donc si je prends un exemple en danse, par exemple, on peut prendre un pas de la danse classique, par exemple une arabesque, je fais une arabesque, hop, il y a plein d'arabesques, bon ça c'est un type d'arabesque, on va dire. Là, probablement, au moment où je parle, il y a plein de gens dans le monde qui doivent être en train de faire des arabesques dans des cours de danse. Et chacune de ces arabesques est unique. Là, si je refais une arabesque, c'est pas le même mouvement. Elles ont eu lieu à deux moments différents. Elles sont toutes uniques. Mais tous ces mouvements uniques doivent avoir quelque chose en commun pour que ce soit des arabesques. Il faut bien qu'il y ait quelque chose en commun pour qu'on les appelle des arabesques. Et ce quelque chose qu'elles ont en commun, c'est ça le type, en fait. Le type, c'est ce qui est requis pour qu'un mouvement soit une arabesque. Donc là, j'ai pris un exemple de la danse classique, mais les types, ils existent dans beaucoup de styles de danse. En fait, dès qu'il y a une séquence de mouvements qui peut être reproduite, on peut la considérer comme un type qui a différentes occurrences. Par exemple, la phrase de cette Henry VII dont je parlais tout à l'heure, c'est un type qui va connaître des occurrences à chaque fois que la pièce est montrée. On pourrait prendre un kickball change en jazz ou un pas de claquette. Enfin, on peut prendre n'importe quel pas, n'importe quelle séquence de mouvements qui peut être reproduite. Et même si on pense à l'improvisation, s'il s'agit d'une improvisation un peu structurée, s'il s'agit d'une improvisation où il y a des règles, on peut considérer que ces règles vont constituer un type et que chaque fois qu'il y a une improvisation qui respecte ces règles, c'est une occurrence de ce type. Donc on voit que la plupart des pratiques chorégraphiques développent des types. Et l'approche que je propose, c'est simplement de se demander selon quels paramètres ces types sont définis. C'est-à-dire, quels sont les critères implicites que l'on applique pour déterminer bon, ça c'est une arabesque, ça c'est du contact impro, ça c'est ceci, ça c'est cela, ou ça c'est un kickball change en jazz. Bon, je vais prendre un type vraiment très très différent de l'arabesque pour qu'on puisse voir le contraste. Il y a une pièce d'Yvonne Rainer qui s'appelle Parts of Some Sextets, qui est de la fin des années 60, qui est construite sur une liste de tâches. Et une de ces tâches, c'est déplacer une pile de matelas d'un côté à l'autre de la scène. Et cette tâche, c'est aussi un type. C'est un type qui va connaître des occurrences à chaque fois qu'on déplace la pile de matelas d'un côté à l'autre. Mais on voit immédiatement que c'est un type qui n'a rien à voir avec l'arabesque. Il n'est pas du tout défini de la même manière. Dans l'arabesque, c'est la forme du corps. Et c'est la forme du corps selon des paramètres géométriques qui est en jeu. Donc il faut, par exemple, que les jambes forment des lignes droites. Si celle-là elle est pliée, ce n'est plus une arabesque, c'est une attitude, par exemple. Donc, c'est des critères géométriques, comme ça. Il faut que les jambes forment des lignes droites, qu'elles créent un certain type d'angle, qu'elles soient derrière le corps, etc., etc. Tandis que dans la tâche 21, au fond, les mouvements, la forme que va prendre le corps, par exemple, lors du déplacement des matelas, elle importe peu. Ce qui compte, c'est où sont les matelas à la fin de la tâche. Donc, le mouvement, il va plus être déterminé par les conséquences qu'il a sur un objet. Sur son résultat que sur la forme que va prendre le corps au cours de l'action. Et là, on voit déjà deux manières complètement différentes d'approcher le mouvement, de définir le mouvement. Et effectivement, comme le disait Emmanuel, je parle dans le livre de mode d'appréhension ou parfois de paradigme d'appréhension parce qu'ils englobent trois choses. Ils englobent une manière de percevoir le mouvement, qui est souvent inconsciente, une manière de le concevoir et aussi une manière de bouger, une manière d'agir sur son propre corps. Et tout ça est uni et tout ça forme ce que j'appelle un paradigme d'appréhension ou un mode d'appréhension du mouvement. Donc on peut commencer avec la géométrie parce que c'est peut-être un des modes d'appréhension du mouvement, un des modes de définition du mouvement qui est le plus répandu en danse. On le retrouve pas partout, mais presque. On le retrouve dans la danse baroque, dans la danse classique, chez Laban, chez Cunningham, chez Forsyth, chez Kersmaker. Et là, j'ai cité que on retrouve chez énormément d'autres chorégraphes. Là, j'ai cité vraiment ceux où la géométrie est prépondérante. Et lorsque l'on regarde, par exemple, l'usage de la géométrie dans la danse classique, il s'agit d'une géométrie très particulière. D'abord, c'est une géométrie orthogonale. Par exemple, si je veux mettre une jambe en mouvement, en danse classique, je peux aller devant moi, sur le côté ou derrière, mais je ne peux pas aller entre les deux, je ne peux pas aller là. Par exemple, ça ne fait pas partie du vocabulaire de la danse classique. C'est pas là. C'est devant ou sur le côté. Et ça forme un angle à 90 degrés. L'autre mouvement que je peux faire, c'est de glisser le long de l'autre jambe. Mais là, ça crée aussi un angle à 90 degrés, cette fois-ci avec le plan du sol. Et si on poursuivait comme ça l'analyse du vocabulaire, on retrouverait partout ces angles à 45 et 90 degrés. En fait, c'est un petit peu comme dans le système tonal, où vous n'avez rien entre un demi-ton. Vous ne pouvez pas descendre, vous ne pouvez pas faire trois commas. C'est l'unité minimale, c'est le demi-ton. Là, c'est tout structuré autour d'angles à 45 ou 90 degrés. Et par exemple, une autre caractéristique de la danse classique qui est intéressante, c'est que les pas dérivent les uns des autres. De deux manières. Parfois, on va combiner ensemble deux pas. Par exemple, il y a un pas danse classique qui est le plié, un autre qui est le dégagé. Et si je mets les deux ensemble, ça fait un fondu. Donc je fais un pli avec cette jambe-là, un dégagé avec cette jambe-là, ça fait un fondu. C'est juste une addition de ces deux pas. Ou parfois, ça va être de prolonger un pas existant. Donc souvent, quand on voit grand jeté, grand battement, grand plié, on prolonge. On peut faire dériver tous les pas qui ne comprennent pas un transfert de poids dans l'espace de uniquement quatre pas. Le plié, le relevé, le dégagé et le coupé. Donc, par exemple, si je fais couper plus dégager, ça permet de faire développer ou envelopper, et ainsi de suite. Et donc, on peut faire en fait comme un arbre généalogique où il y aurait ces quatre pas à la base et toutes les dérivations. Avant de poursuivre cette analyse de la géométrie, je voudrais revenir un petit peu sur cette idée parce que j'ai dit que c'était une manière de percevoir, une manière de concevoir, mais aussi une manière d'agir. Ces paradigmes d'appréhension. Et là, dans la manière d'agir, il y a quelque chose d'assez particulier en danse, qui est que la plupart du temps, le danseur, il agit sur son propre corps. Donc la plupart de nos actions mobilisent notre corps, mais souvent on agit sur des objets extérieurs. Par exemple, là, quand j'ai déplacé la feuille, mon mouvement il visait la feuille. Ou si j'ouvre une porte, mon mouvement il vise la porte, ou la chaise, ou toutes sortes d'objets extérieurs à moi-même. Tandis que si je fais une arabesque et que je forme une ligne droite avec mon bras, mon mouvement il vise mon bras. Je n'agis pas sur un objet extérieur. La cible de mon mouvement, de mon action, elle est au sein de mon propre corps. Et donc, c'est très particulier parce que la même personne agit et subit l'action. Il est à la fois l'agent et le patient de l'action. Il agit sur lui-même. Et donc, on a une forme de réflexivité, mais une forme de réflexivité qui a lieu au sein même de l'action. Parce que la réflexivité, c'est un thème tellement présent, par exemple, en philosophie. Mais d'habitude, quand on pense à la réflexivité, on pense plutôt à la réflexivité de la conscience, le fait d'être conscient de soi-même ou de penser à soi-même, et moins à la réflexivité de l'action, le fait d'agir sur soi-même, de viser son propre corps par l'action. Et ce qui me semble intéressant dans cette forme-là de réflexivité, lorsque l'on agit sur soi-même, c'est qu'elle n'implique pas la prise de distance avec l'action qu'implique d'habitude la conscience réflexive. Si on fait une action, là, par exemple, si en même temps que je vous parle, je me mets à penser au fait que je suis en train de vous reparler ou à certaines caractéristiques de la situation, ça change l'action elle-même. Je ne suis plus vraiment dans la même action. Je ne suis plus simplement en train de vous parler. Je suis en train de vous parler tout en étant conscient du fait que je vous parle. Donc, il y a une sorte de prise de distance avec la situation qui est inévitable lorsqu'on se regarde agir, en fait, lorsque l'on est conscient de soi et qu'on s'observe en train d'agir. Mais lorsque l'on agit sur soi-même, il n'y a pas cette prise de distance, parce que la réflexivité, elle est inclue dans l'action elle-même. Une action réflexive, ce n'est pas une action qui est accompagnée par une réflexion sur l'action, ce n'est pas agir tout en étant conscient qu'on est en train d'agir, c'est une action qui nous vise nous-mêmes. Et c'est très différent comme la sensation, l'expérience auquel ça donne lieu. Et donc l'action réflexive se distingue de la pensée réflexive, mais elle va aussi se distinguer des actions du quotidien qu'on pourrait plutôt appeler des actions transitives, lorsque l'on agit et que ce qui est visé par l'action, c'est un but qui est extérieur au corps lui-même. Et là, d'habitude, ce qui se passe, c'est que le corps s'efface au profit du but que l'on poursuit. Par exemple, quand vous êtes assis, quand vous êtes venu et que vous êtes assis, vous n'avez pas eu à penser à tous les mouvements que vous avez faits. Ou là, quand je suis en train de vous parler, je n'ai pas besoin de penser à la coordination de ma langue. Enfin, si je me mets à le faire, ça va devenir difficile, mais de mes lèvres, de mon larynx, etc., pour parler. Je parle, et je veux parler, je veux dire les mots, et ça s'enclenche pour moi, ça se fait tout seul, automatiquement. Mais par là même, je ne suis pas forcément conscient de tout ce qui se produit au niveau de mon corps. Le même phénomène peut avoir lieu dans une séquence de mouvement. C'est vrai que lorsque l'on connaît bien une séquence de mouvement, une fois qu'on l'a intégrée, on n'a pas besoin de guider chaque étape du mouvement. Donc il y a un certain peut-être effacement du corps, mais ce qui est intéressant, c'est que l'action que l'on est en train de faire, elle concerne notre propre corps. Donc on n'est ni dans cette prise de distance avec l'action qu'implique la pensée ou la conscience réflexive, ni dans cet effacement du corps que crée l'action quotidienne, l'action pratique qui est orientée vers ses conséquences. L'hypothèse que je fais dans le livre, c'est qu'au fond, avec ces différentes manières de définir le mouvement, à chaque fois, ça permet d'agir sur une différente strate de son propre corps, sur une différente strate de soi-même, et par là même de faire l'expérience de ces différentes strates de soi-même. On peut faire l'expérience de soi-même comme un mobile géométrique, quand on se vise soi-même géométriquement, comme une chose physique qui a une masse, qui est soumise aux lois physiques comme toutes les autres choses physiques de ce monde, mais aussi comme un être sensible, comme un être érotique, etc. etc. Et faire l'expérience de soi-même, de ces différentes strates de soi-même, en agissant sur soi-même selon ces différentes modalités, selon ces différents paramètres, c'est très très différent que de penser à ça, que de le contempler mentalement. Lorsqu'on fait un mouvement qui est défini géométriquement, on n'a pas besoin de penser à la géométrie. On agit sur soi-même selon des coordonnées ou selon des paramètres géométriques. Et donc, je pense que ça permet d'éprouver différentes dimensions de soi-même. Et dans une certaine mesure aussi, en tant que spectateur, quand on voit ces différentes manières d'agir sur soi-même, d'observer, de faire l'expérience de quelqu'un qui agit, qui vise ces différentes strates de lui-même. Alors je vais continuer un petit peu avec la géométrie. Et ce qui est intéressant dans l'analyse dans le fait d'analyser la danse classique, ce qui est pas beaucoup fait à mon sens, c'est que ça permet de comprendre certaines innovations qui ont eu lieu au cours du XXe siècle dans la danse moderne, dans la danse néoclassique et parfois dans la danse contemporaine, qui vont aller travailler finalement dans les interstices de la danse classique. Qui vont aller travailler là, qui vont poursuivre le mode de définition qui est présent dans la danse classique, mais en s'affranchissant des limites du canon académique de la danse classique. Donc la première chose qu'on peut faire et qui est tentante, c'est de s'affranchir de ce côté orthogonal de la géométrie. Donc aller produire des angles qui ne sont pas des angles droits, des directions qui ne sont pas selon des angles droits, etc. Et ça, on le retrouve énormément chez Cunningham ou chez Balanchine. Et aussi, une autre chose, c'est que si je fais toute une séquence de mouvements dérivés géométriquement ou dérivés anatomiquement, je ne vais pas du tout obtenir les mêmes résultats. Alors bien sûr, l'anatomie, elle n'annule pas la géométrie. Au fond, elle suppose la géométrie d'une certaine manière. Parce que pour faire la distinction entre une rotation et une flexion et une adduction, il faut qu'il y ait différents plans. Il faut pouvoir faire des distinctions entre différents plans. Et ces plans, ils sont d'ordre géométrique. Mais ce n'est pas du tout le même usage de la géométrie. Dans un cas, on va imaginer une structure géométrique, un triangle, une ligne, un cercle, et on va se demander comment le corps peut... quelque part incarner ou quelque part tracer cette structure géométrique qui est préexistante. Et dans d'autres cas, on va partir de la structure du squelette, de la structure articulée du squelette pour construire les mouvements. Alors après la géométrie et l'anatomie, un autre mode de définition qui va être développé quelque part par les élèves en fait, d'Anne Halprin, par Simone Forti, Trisha Brown, Yvonne Reiner dans certaines pièces, c'est la mécanique dont j'ai parlé un petit peu avec Seth and Reset. Et là, il y a un exemple assez intéressant parce qu'il y a une pièce de Simone Forti qui s'appelle A Chamber Dance Concert, qui est un duo qui a été donné dans un loft à New York dans les années 70. Malheureusement, il n'y a pas d'enregistrement, enfin pas de vidéo, en tout cas pas à ma connaissance. Mais par contre, Simone Forti a publié un texte assez incroyable, où elle décrit toute la pièce de manière extrêmement précise en anglais. Donc je vais vous lire un extrait qu'elle écrit. Ramper consiste à étendre un bras vers l'avant, à transférer le poids sur le bras de devant et à tirer vers soi la jambe opposée, qui est la plus en arrière, en contractant ou en consolidant le côté du nombril du tronc. Je rampe jusqu'à ce que je sente l'élan vers l'avant dans l'action de ramper. Ensuite, je mets mon poids vers l'arrière pour m'asseoir. Si ma jambe gauche est en avant, mes fesses tombent en diagonale vers la gauche et je me trouve assise trois quarts de tour vers l'arrière. Pour me lever à nouveau, j'étends mes bras loin vers l'avant en contrebalançant la partie inférieure de mon corps avec la partie supérieure de mon corps et en me laissant basculer entre mes jambes pliées, je me trouve à nouveau à quatre pattes. Voilà, ça continue comme ça pendant trois pages, très très très, très précise. Et là, on voit que toute la manière dont elle décrit le mouvement est d'ordre mécanique. Elle parle de transfert de poids, elle parle de consolider, donc de quelque part de contracter telle ou telle partie du corps. Elle parle même en anglais, ce que j'ai traduit en français par élan, parce qu'il n'y avait pas de traduction française, elle l'appelle momentum, et le momentum, c'est pour le coup vraiment un thème de la, je veux dire, excusez-moi, un terme de la physique newtonienne. Donc on voit que c'est vraiment défini de manière mécanique. Et donc, la mécanique se greffe sur l'anatomie, comme l'anatomie, quelque part, s'était greffée un peu sur la géométrie. Donc, si je reprends le fait de lever le bras sur le côté, cette fois-ci, si je voulais l'aborder de manière mécanique, je penserais à hisser le poids du bras en contractant le deltoïde, en fait, le muscle du dessus de l'épaule. Et si je suis dans un mode d'appréhension mécanique, par exemple, je peux lâcher le poids du bras. Et là, je vais obtenir une qualité de mouvement, de lâcher la résistance à la gravité, que je ne peux pas obtenir sur un mode géométrique. Je peux essayer, je peux me dire, je vais tracer un vecteur avec une certaine vitesse, mais je peux pas, même si j'essaie de reproduire le petit rebond à la fin, je ne pourrai jamais obtenir la qualité de mouvement qui est créée par cette simple action de ne plus résister à la gravité. En fait. Et puis... encore une autre manière de définir le mouvement que j'aborde dans le livre, c'est le fait de se donner des buts pratiques. Donc, j'en ai parlé déjà un petit peu avec la tâche 21, de déplacer les matelas. Mais c'est quelque chose qui existe en danse depuis beaucoup plus longtemps. En fait, ça existe déjà dans la danse baroque et dans la danse classique. Par exemple, le pas frappé, où on va frapper le sol avec la pointe du pied. On se donne un but pratique, bon, qui est très, très stylisé. Hein, c'est pas comme la tâche de déplacer les matelas. Mais il y a quand même le but de frapper le sol qui va permettre d'obtenir une qualité de mouvement particulière de percussion. Et ce que l'on voit tout de suite, et quel que soit, que ce soit de Yvonne Reiner ou du ballet classique, il y a quelque chose de commun, bizarrement, qui est que lorsqu'on se donne un but pratique pour exécuter un mouvement, eh bien, il y a un renversement justement du rapport qu'il y a habituellement entre le mouvement et le but pratique. D'habitude, le mouvement est là pour accomplir le but pratique. Si je frappe sur la table pour la casser, mon mouvement, il est là pour que la table soit cassée. Par contre, si je fais un frappé, en danse classique, c'est pas dans le but de déformer ou de casser le sol. C'est le contraire, je me donne le but de frapper pour pouvoir accomplir un mouvement spécifique. Et c'est pareil dans la tâche de déplacer les matelas. Quand on déplace des matelas dans un déménagement, c'est pour le résultat de l'action. On veut que le matelas soit sur le lit pour qu'on puisse dormir dessus, etc. Mais là, en fait, ça importe peu que la pile de matelas soit à droite ou à gauche de la scène. On se donne, quelque part, le but devient un prétexte. Le but devient un moyen pour que l'action de déplacement elle-même ait lieu. Et donc, par rapport à cette idée, parce que dans la danse classique, où il y a de l'usage des buts de pratique existe aussi chez Laban, enfin chez beaucoup d'autres chorégraphes, entre la danse classique et Yvonne Rainer, mais jusqu'à Yvonne Rainer, c'est souvent pour obtenir une qualité de mouvement. Alors que chez Yvonne Rainer, il y aurait l'idée, quelque part, ou l'ambition de montrer le mouvement pratique en lui-même, de montrer le mouvement quotidien, de montrer le mouvement motivé par un but pratique sur scène. Mais là, on voit qu'il y a quelque part un paradoxe, ou une tension, ou une impossibilité. Parce que dès qu'on le fait sur scène, le mouvement n'est plus véritablement motivé par ce but pratique, parce que c'est le mouvement lui-même qui nous intéresse, et plus les conséquences du mouvement, comme lorsque l'on fait un déménagement. Même là, si je voulais vous montrer un exemple de mouvement motivé par un but pratique, par exemple, si je disais, ben, là, je vais tourner la feuille pour vous montrer un mouvement motivé par un but pratique, ben, dès que je le fais, pour vous le montrer, il est plus motivé par un but pratique parce que justement, je veux vous le montrer. Donc, je ne peux pas vous montrer, c'est impossible, je ne peux pas vous montrer un mouvement quotidien, je ne peux pas vous montrer un mouvement motivé par un but pratique. Si je veux prendre un exemple, je suis obligé de prendre un exemple du passé. Par exemple, quand j'ai tourné la feuille d'avant. Là, je l'ai tournée pour vraiment la tourner. Je ne voulais pas vous montrer l'action de tourner une feuille. Mais donc, on ne peut pas montrer un mouvement et qu'il garde la même intention, qu'il soit motivé par les mêmes intentions que si on ne voulait pas le montrer. Quelque part, c'est évident, mais c'est intéressant de se rendre compte que c'est vraiment une limite de ce qu'on peut faire sur scène. On ne peut pas faire ça sur scène. On peut faire beaucoup d'autres choses, mais ça, là, il y a une impossibilité. Alors, je vais aborder deux distinctions qui sont présentes dans le livre, qui peuvent s'appliquer à énormément de modes de définition du mouvement différentes et qui sont liées l'une à l'autre, mais qui s'appliquent en tout cas à tous les modes de définition dont j'ai parlé jusqu'ici. La première, c'est la distinction entre définir le mouvement de manière locale ou de manière globale. Par exemple, ça apparaît très clairement avec la géométrie. Dans la danse classique, ou chez Cunningham, la définition géométrique du mouvement, elle englobe tout le corps. Bon, là, je tiens le micro, mais sinon, quand je fais une arabesque, tout mon corps est défini, la forme de l'entièreté du corps est définie de manière géométrique. Pareil chez Cunningham, pareil chez Balanchine. Mais dans la technique d'improvisation de William Forsythe, qui s'appelle Improvisation Technologies, il y a beaucoup de mouvements qui sont définis géométriquement, mais de manière locale. Ce que je veux dire, c'est qu'on va assigner une contrainte géométrique à une partie du corps, par exemple à la main. Et le reste du corps, il est libre de s'adapter comme il peut à cette contrainte géométrique. Ça peut être la main, mais ça peut être n'importe quelle autre partie du corps. Et là, ça crée une sorte de scission au sein du corps, entre la partie qui est manipulée et la partie qui manipule. Pour mieux le voir, on peut s'appuyer sur une distinction qui existe chez Aristote, dans la physique d'Aristote, qui est une distinction assez simple entre moteur et mobile. Le moteur, c'est ce qui met en mouvement, c'est ce qui guide le mouvement, et le mobile, c'est ce qui est mis en mouvement, c'est ce qui est déplacé. Donc là, si je prends mon livre et que je fais ça avec, ben le livre, c'est le mobile, et moi, je suis le moteur. Donc là, je trace une ligne avec le livre et le mobile. Et le reste, et tout mon corps, enfin, moi je suis le moteur. Mais maintenant, si je fais la même chose que je faisais avec le livre, mais avec ma main, on voit que le rôle que tenait le livre jusqu'à présent, maintenant c'est ma main qui le tient. Donc je traite ma main un peu comme je traitais le livre. Donc je peux manipuler ma main de la même manière que parfois je manipule des objets extérieurs. Et donc ma main devient le mobile et le reste de mon corps, c'est le moteur. Donc on a un corps hétérogène avec une partie du corps qui, quelque part, est objectifiée, donc qui est réifiée. Et ça va changer tout le temps suivant à quelle partie du corps sur quelle partie du corps je mets la contrainte géométrique. Donc toutes les manières de définir le mouvement dont j'ai parlé jusque-là, la géométrie, la mécanique, les buts pratiques, l'anatomie, local, global, etc., ça peut être tout autant des manières d'observer, des outils de regard, dans un sens. Des manières de prêter attention au mouvement. Et d'ailleurs, il y a une pièce de Simone Forti qui exprime cela de manière assez forte. Et elle a écrit en fait des comptes rendus de danse qui sont très courts. Je vais vous en lire un. Donc c'est compte rendu de danse. Un oignon ayant commencé à germer a été disposé sur le goulot d'une bouteille. Au fil des jours, il a progressivement transféré sa matière du bulbe au germe, modifiant les répartitions de son poids jusqu'à finir par tomber. Donc voilà le compte rendu de danse. Et donc là, elle décrit un événement qui d'habitude ne serait pas défini comme de la danse, la germination d'un oignon qui va l'amener à tomber du goulot d'une bouteille. Il y en a un autre où elle va décrire les mouvements de quatre petits garçons qui jouent dans la neige. Et on voit bien que c'est finalement dans le mode de regard, dans la manière d'observer, la manière de décrire cet événement que se trouve la danse, que se situe la danse. Et là, il s'agit de compte-rendu de danse, mais les différentes analyses du mouvement que j'ai proposées, en partant des pratiques chorégraphiques, on peut les concevoir comme des concepts de danse, ce que disait. Mais quand je veux dire concept de danse, c'est pas différentes manières de concevoir la danse, c'est des manières de concevoir le mouvement qui peuvent, quelque part, permettre de transformer en danse, dans un sens, soit ses propres mouvements, avec une certaine manière d'y prêter attention, soit les mouvements des autres, ou les mouvements de n'importe qui dans la rue qu'on observe, avec une certaine manière d'y prêter attention. Mais qui peut être aussi riche de toutes ces étapes qu'il y a eu, de toute cette histoire de la géométrie en danse, dans une certaine manière. Alors je vais juste conclure en reprenant cette idée de focale d'attention, donc cette idée qui est plus développée dans le livre que ce que je peux le faire maintenant, mais que ces différents modes d'appréhension dont j'ai parlé, c'est pas uniquement des manières d'agir, ou c'est pas uniquement des outils pour le chorégraphe et pour le danseur, mais c'est aussi des outils de regard. En fait, je pense que ce qui m'intéresse vraiment, c'est le fait que suivant comment on va concevoir le mouvement, ça va permettre différentes expériences. Et donc, c'est comme différentes focales d'attention qu'on peut employer, et qu'on peut employer aussi bien par rapport à ses propres mouvements que par rapport aux mouvements des autres. Et donc, c'est dans cette dimension-là que pour moi, le livre, on peut aussi le concevoir comme une proposition chorégraphique. C'est une proposition chorégraphique qui ne prend pas la forme d'une pièce, qui prend la forme d'une réflexion, qui prend la forme d'un livre, mais c'est quelque part une œuvre d'observation. C'est une œuvre qui propose une manière d'observer et qui est dans une certaine tradition, parce que depuis au moins les années 50, il y a beaucoup d'œuvres qui consistent moins à proposer des nouveaux objets ou des nouveaux événements qu'à proposer des manières de prêter attention à ce qui est déjà présent. La plus connue, c'est peut-être 4 minutes 33 de Cage, où il crée un contexte où on va prêter attention aux bruits ou aux sons qui sont déjà présents dans la salle. Mais le compte-rendu de danse que je vous ai lu de Simone Forti, c'est aussi un autre exemple, cette fois-ci dans le genre chorégraphique. Alors là, c'est un autre cas de ça, on pourrait dire, on pourrait les rapprocher de ces œuvres-là, mais sur un mode conceptuel, avec un développement, une analyse conceptuelle, mais qui vise finalement à être redirigé aussi, ou en tout cas à créer un circuit, une sorte d'aller-retour entre l'expérience et l'analyse. Et en cela, on peut parler quelque part d'une œuvre conceptuelle, mais elle est très différente de certaines œuvres conceptuelles des années 60, 70, comme les œuvres de Joseph Kossuth ou de Lawrence Weiner, les artistes les plus connus de l'art conceptuel, qui eux visaient à véritablement s'éloigner de l'expérience, dans la lignée de certaines texte de Duchamp, en tout cas, de s'éloigner de l'expérience et de dématérialiser autant que possible l'œuvre d'art. Il y a cette série d'œuvres de Kossuth qui s'appelle Art as Idea as Idea. Donc, on pourrait dire l'art comme idée, mais je trouve qu'en français, on peut même on pourrait dire l'art comme idée en tant qu'idée. Je ne sais pas si c'est juste comme traduction, mais je trouve que ça fait bien ressortir le sens. L'art comme idée, c'est évident. Quelque part, toutes les œuvres incluent des idées qui vont servir à l'élaboration ou qui vont être transmises ou exprimées par l'œuvre. Mais là, l'idée, ce n'est pas de proposer une œuvre d'art qui est une idée qui se matérialise, qui prenne une forme matérielle, mais une idée qu'on contemplerait en tant qu'idée, qu'on contemplerait donc mentalement. Il y a cette idée de mettre à distance l'expérience perceptive. Alors que là, ce n'est pas du tout le cas. Là, c'est l'idée de construire une certaine conceptualisation, mais qui va viser à être redirigée vers l'expérience, ou en tout cas à faire un aller-retour avec l'expérience, où on va se demander comment différentes manières de penser une même situation vont permettre différentes expériences de cette situation. Et par là même, on peut se demander quelle est la plus fertile. Quelle est la plus fertile pour percevoir ci ou ça? Quel est le point de vue qui crée l'expérience la plus intéressante par rapport à telle ou telle situation? Voilà, merci beaucoup.
Radio Grenouille, au mercredi de Montevideo, avec Noé Soulier, chorégraphe, qui présente un ouvrage publié aux éditions Carnet Centre National de la Danse, Action, Mouvement et Gestes. Merci Noé pour cette présentation. Donc tu as parlé d'un certain nombre de chorégraphes, Trisha Brown, Cunningham, Simone Forti. À un moment donné, tu t'appuies sur le travail de Xavier Leroy, Produit de circonstances,
ouais.
Une sorte d'autobiographie de Xavier Leroy.
Ouais. Je parle de ça à un moment où c'est pas quelque chose dont j'ai parlé là. C'est un moment du livre où je réfléchis justement aux outils qui peuvent exister, soit pour orienter en fait l'interprétation et la lecture du spectateur. Donc là, j'ai parlé par exemple à des outils qui sont quelque part déjà au sein même du mouvement. Mais il y a aussi toutes sortes d'outils qui peuvent être en amont, en aval. Il peut y avoir la feuille de salle qui peut donner toutes sortes d'informations qui vont orienter. Il peut y avoir le fait qu'il y ait une culture commune, comme dans le ballet. Et puis il y a aussi ce que disent les performeurs sur scène. Donc c'est là où je prends l'exemple de Xavier Leroy. Parce qu'il y a un moment dans la pièce où il dit que c'était un moment de sa vie où il jouait au basket et donc il faisait des exercices pour s'assouplir. Et après, il va sur scène et il fait comme ça. Et donc forcément, là, quand on a cette information-là, ça oriente ça même. On ne peut voir ce mouvement-là que comme une sorte d'exercice d'assouplissement. Alors que s'il y avait exactement le même mouvement dans une pièce de Cunningham, il pourrait exister. On ne le percevrait pas du tout de la même manière. Et puis après, il parle en manière sur un mode très... très technique des recherches qu'il faisait à cette époque-là en biologie. Et puis, il fait un extrait d'une pièce complètement décontextualisée où il imagine en fait que ses épaules commencent au niveau des coudes. Et donc là, on a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a un discours qu'on ne peut absolument pas comprendre parce qu'il utilise des termes tellement techniques hors contexte. Et puis, un extrait de pièce qu'on ne peut pas non plus comprendre, donc sur lequel on peut projeter toutes sortes de choses, mais où... Donc il y a une sorte de contraste entre un mouvement qui est surdéterminé par le langage qui l'a précédé et où il n'y a presque pas de liberté d'interprétation pour le spectateur, et un autre mouvement qui est complètement ouvert, où on n'a aucune piste même d'interprétation qui est proposée.
Je voulais t'entendre parler de cette pièce parce que j'ai le sentiment, mais tu me diras si je me trompe, qu'au fond ton travail, il est aussi celui de venir travailler sur la réception, de jouer sur les différents modes de perception et justement d'en user un peu comme ce que faisait aussi à sa manière Xavier Leroy.
Ça, c'est un moment très particulier, un moment assez bref dans Produits de circonstances. Je pense que dans une certaine mesure, c'est très difficile au fond de faire une pièce sans se préoccuper ou sans viser les modes de réception auxquels elle va donner lieu.
Par exemple, Idéographie.
Mmh. Alors dans Idéographie,
qui est une pièce qui date
de 2011, c'était une des premières pièces que j'ai fait en sortant de Parthe. En fait, là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de prendre des argumentaires. L'idée d'Idéographie, qui était un peu folle au départ, c'était de se dire, est-ce que... Enfin, c'était un peu une réaction aussi, parce qu'il y avait beaucoup c'est drôle que ce soit moi qui dis ça maintenant, mais il y avait beaucoup de textes théoriques sur la danse. Et donc, je m'étais demandé, est-ce qu'on pourrait inverser la logique, c'est-à-dire ne pas parler théoriquement de la danse, mais voir s'il y aurait une manière de structurer les idées de structurer une pensée qui pourrait être d'ordre chorégraphique. Et je ne savais pas exactement ce que ça pourrait vouloir dire. Mais finalement, ce que ça a créé, c'est que j'ai utilisé des tas de bouts de théorie, en fait, qui venaient de champs différents, etc., comme des manières d'orienter l'attention selon différentes focales d'attention sur la situation qui est présente. Et dans cette pièce-là, c'était juste moi qui parlais, en gros. Donc quelqu'un qui parle sur scène. Mais il y a tellement de manières d'observer ça. Donc si on prend une théorie dans la phénoménologie, ça ne va pas du tout donner la même expérience, la même expérience de pensée, mais même la même expérience perceptive que si on est dans une vision du monde complètement matérialiste, avec une physique tout à fait, etc. Donc j'alternais comme ça différents types de théories qui donnent des points de vue complètement différents sur le monde et qui venaient essayer de moduler et donc que la chorégraphie soit effectivement dans l'attention du spectateur et pas dans les mouvements que je faisais moi. Dans Mouvement sur Mouvement, qui s'appuie en grande partie sur les réflexions que j'ai partagées là et qui sont plus développées dans le livre, ce qui était étrange, c'est que quelque part, à la fois je dansais, je faisais des mouvements qui avaient toute une logique à eux, mais en même temps je proposais en temps réel, en parlant, énormément de voir, comme je l'ai fait avec vous là, énormément de manières de voir le mouvement. Et donc, il y avait une sorte de c'est comme s'il y avait des tas de propositions de regard qui étaient faites en même temps que le mouvement est exécuté. Donc, il y avait quelque part des propositions de réception qui étaient déjà incluses dans la proposition elle-même. Donc, après, on pourrait se demander comment recevoir ces propositions de réception. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment une curiosité de ma part, en tout cas, sur le fait de comment les modes de réception peuvent être inclus dans l'œuvre elle-même.
Et du coup, pouvoir les brouiller. Parce qu'au fond, même si ce livre, par exemple, fait une opération comme de clarification, le travail de scène pourrait être de remélanger ou rebrouiller, en fait.
Ben, y a à la fois une opération de clarification, et puis ce qui peut être brouillé, c'est la limite entre art et théorie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite très très claire. Et c'est un peu ce que je propose à la fin du livre. C'est qu'au fond, à partir du moment où on parle d'une œuvre d'art en tant qu'œuvre d'art et pas en tant qu'un objet sociologique ou économique ou historique, ce qui peut être très intéressant, mais à partir du moment où on se demande qu'est-ce qu'elle nous permet d'éprouver, par exemple, et qu'on se demande quelle est la manière de la regarder, ce qui est la plus fertile dans ce qu'elle nous permet d'éprouver, ce que va beaucoup faire certains types de critiques d'art littéraire, chez Diderot, chez Huysmans, chez Baudelaire, quand on fait ça, on est dans un discours sur l'art qui est de l'art lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, la raison pour laquelle, pour moi, il appartient encore au champ de l'art, c'est qu'on ne va jamais pouvoir dire c'est vrai ou faux. On ne va pas pouvoir dire c'est vrai ou faux. On va pouvoir dire cette version-là, cette approche-là, je la trouve plus puissante, je la trouve plus stimulante que celle-là. Et ça veut dire aussi que il y a beaucoup de choses qui se veulent de la théorie de l'art, mais qui finalement appartiennent, qu'elles le veuillent ou non, quelque part un peu au champ de l'art. Une manière de le faire apparaître, c'est par exemple chez certains théoriciens de l'art qui veulent pas du tout être des artistes, qui veulent être des théoriciens très sérieux, etc. Par exemple, si on prend Winckelmann, le théoricien allemand du XVIIIe siècle, qui crée toute la théorie du beau idéal par rapport à l'art grec. Il a une conception du beau idéal qui est historiquement probablement fausse, parce qu'il pense que toutes les statues et tous les temples grecs étaient blancs et immaculés. Et toute une partie de sa réflexion sur le beau idéal se base là-dessus, alors qu'ils étaient peints. Et maintenant, on a toutes les preuves archéologiques pour montrer qu'ils étaient peints. Mais même si sa conception elle est complètement anachronique, elle est complètement fausse historiquement, elle reflète pas du tout probablement la perception qu'avaient les Grecs de l'époque, etc. Elle peut être quand même stimulante artistiquement, c'est-à-dire que ça peut être toujours intéressant de regarder à travers cette conception et cette focale d'attention quelque part du beau idéal qui est très romantique en fait et qui va influencer tout le romantisme, Schlegel, etc. C'est toujours stimulant, donc même si c'est faux historiquement, ça a toujours une pertinence artistiquement. Donc on voit bien qu'on n'est plus dans les mêmes catégories, en fait. Quoi.
Dans ton travail, est-ce que l'acte involontaire a une place importante ou pas ?
Oui. En fait, alors je ne sais pas si on peut appeler ça véritablement involontaire, mais par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette idée de mouvement défini par des buts pratiques. Parce que c'est un mode de définition du mouvement que je trouve très riche, dans le sens où si on pense à frapper quelque chose ou à éviter quelque chose, bon, y a un peu tout ce que. Souvent, y a une géométrie, dans le sens où il va y avoir une orientation, etc. Il y a aussi de la mécanique, mais il va y avoir un tonus musculaire, il va y avoir aussi un affect, une émotion qui vient avec. On n'appréhende pas exactement le mouvement de la même manière. Et tout ça est quelque part inclus, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est dit, ben, je vais frapper ça avec ma main, j'ai pas besoin de rajouter, en fait, toutes ces caractéristiques, de les détailler, de les analyser. Elles sont englobées dans ce mode d'approche du mouvement. Après, une des choses qu'on a essayé de faire, par exemple, qui peut relever peut-être plus de l'analyse des modes de monstration du mouvement, c'est que lorsque l'on reconnaît le but, c'est très difficile en tant que spectateur, je trouve, de prêter attention aux qualités motrices du mouvement. Par exemple, si j'attrape le livre, peut-être là, mon mouvement, la manière dont mes doigts sont ouverts, dont ils ont préfiguré la forme du livre, il y avait probablement plein de choses intéressantes. Mais c'est impossible que vous y... C'est presque impossible. Bon, d'abord, c'était un peu rapide, mais c'est presque impossible qu'on y prête attention parce que dès qu'on comprend, dès qu'on saisit même très intuitivement quel est le but, on n'a plus besoin de prêter attention au mouvement. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est d'essayer de trouver différentes stratégies pour désamorcer la reconnaissance du but. Et dès qu'on désamorce cette reconnaissance, si le but est encore très précis pour le performeur, pour l'interprète, mais que pour le spectateur, on ne peut plus reconnaître le but, ça permet de faire apparaître toutes ces qualités motrices qui étaient déjà là, mais qui n'étaient pas vues parce qu'on passait directement à l'identification du but.
En fait. C'était dans quel spectacle, ça ?
Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé dans Petite Perception, qui était un trio que j'ai fait il y a un moment. Et là, dans les deux derniers spectacles, Removing et Fais et Gestes, mais j'ai trouvé de plus en plus de manières de faire ça. Par exemple, dans Removing, à un moment donné, il y a un duo qui est complètement basé sur un art martial qui s'appelle le Jiu-Jitsu brésilien. Et c'est un art martial qui m'a intrigué parce que en jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de percussion comme en boxe ou en karaté, donc il n'y a pas de coups, il n'y a pas d'esquive non plus vraiment, et il n'y a pas non plus de projection au sol comme en judo. C'est des prises en fait où on crée des bras de levier et on amène une partie, une articulation de l'autre jusqu'à la limite de son amplitude de mouvement. Et si on a le bras de levier pour soi, il est obligé d'abandonner, sinon on disloque l'articulation. Je sais que ça paraît un peu brutal quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment fascinant. C'est très très très, c'est un très très bel art martial. Et ce qui est très très complexe. Et donc quand on connaît pas l'art martial, on comprend rien. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est que quand on regarde un combat de boxe, on comprend tout de suite qu'il y en a un qui essaie de se frapper et de pas se faire frapper. Alors que là, ils font toutes sortes de mouvements, on comprend absolument pas, mais on voit qu'ils recherchent un but très précis. Et donc leur but permet de donner des caractéristiques très étonnantes et très précises à leur mouvement. Et le fait qu'on ne le reconnaisse pas fait qu'on projette énormément d'autres choses. Par exemple, ils se retrouvent toujours entre les jambes l'un de l'autre. Donc quelque chose de très très sensuel, de très érotique. Il y a des moments où on dirait qu'ils escaladent, il y a des moments où il y a quelque chose de végétal, d'animal, de minéral. Je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je voyais tout ça là-dedans. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des cours d'abord de jiu-jitsu brésilien, ensuite on a appris par cœur un combat, mais on a retiré tout ce qu'il pouvait y avoir d'agonistique, en fait, parce que c'est devenu une partition écrite, en fait, complètement écrite, et donc on collabore dans l'élaboration du mouvement. Donc là, il y a un but pratique, mais qui a été modifié, remodifié, et en plus qui part d'une forme où c'est très difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas la technique de comprendre la finalité du but pratique. Et donc, ça crée une qualité de mouvement qui est très précise, et en même temps sur lequel, en fait, je pense que c'est... Alors là, je suis parti très loin du livre, hein, mais je parle maintenant de mon travail. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent les mouvements qui ont des aspérités, pour toutes sortes de raisons, qui vont mettre en branle, quelque part, l'histoire motrice du spectateur. Et donc, qui vont avoir des aspérités qui font qu'on peut projeter des choses sur eux. Et que donc on va peut-être éprouver des émotions, où il peut y avoir des éclats de sens, ou des flashs, ou toutes sortes de choses, sans qu'on se souvienne précisément d'un épisode de sa vie. Je ne veux pas dire qu'on va faire ça et ah là, j'étais à la campagne, c'était incroyable. Non, c'est plutôt qu'on va jouer sur cette espèce d'expertise motrice qu'on a tous, et de mémoire et de grande histoire motrice qu'on a tous avec toutes ces expériences,
et essayer de l'activer, en fait, de l'activer par ces mouvements qu'ils ont des aspérités. Mais je suis parti assez loin. De...
enfin, on retrouve dans le livre, tu cites, je crois, un extrait de plutôt du côté de la neuroscience.
Oui.
Où bon, il y a tout un travail qui explique que lorsqu'on regarde quelqu'un faire un geste, on le fait aussi d'une certaine manière.
Oui.
Et donc, ce que tu dis, finalement, n'est pas si loin sur faire en sorte que l'exploration motrice ait lieu pour le spectateur en regardant le danseur faire cette exploration.
C'est vrai que c'est quelque chose d'assez fascinant. Vous avez tous les processus miroirs et les neurones miroirs qui sont les plus connus, mais il y a toutes sortes de processus miroirs où finalement, apparemment, pour décrypter un mouvement, le système moteur va quelque part le lancer en interne, sans aller jusqu'à l'actualisation, mais il va lancer le même processus moteur, et c'est ça qui permet la reconnaissance, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand on voit un mouvement très extrême, par exemple, on ressent physiquement Mais c'est drôle, je lisais l'autre jour un texte d'Adam Smith, en fait, la théorie des sentiments moraux, et ça commence par ça, en fait. Ça commence par une analyse de l'empathie, en fait, qu'on a par rapport au mouvement des autres. C'est assez fascinant comme texte. Le premier chapitre, je vous le recommande. L'idée du livre aussi, justement, c'est de dire qu'il n'y a pas un bon mode d'analyse du mouvement. Et que l'intérêt, c'est qu'il y en ait plein. Et qu'ils ne soient pas réductibles les uns aux autres. Parce que, par exemple, on pourrait comparer avec Laban. Ce qu'essaye de faire Laban, c'est de trouver le mode d'analyse, enfin, le ou les modes, en tout cas, mais les modes d'analyse universels. Donc, une manière d'analyser le mouvement auquel on pourrait ramener tous les mouvements. On pourrait analyser aussi bien les gestes que l'on fait pour un accouchement, qu'une performance de buto, qu'un truc de danse classique et un truc de Cunningham. Je pense que à chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on a cette volonté universelle, on simplifie énormément les choses. C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'essayais de montrer par la différence entre le géométrique et le mécanique. On peut pas les réduire les uns aux autres. On peut pas réduire l'approche par un but pratique. On peut bien sûr l'analyser, on peut noter tout ça de manière géométrique. On peut tout voir de manière géométrique, par exemple. Mais on va pas saisir ce qui fait la spécificité de cette approche-là du mouvement ou de cette approche-là du mouvement. Donc, justement, moi, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est pas de dire, tiens, il y a ce mode d'approche-là qui est bon pour tout, mais de dire, il y a plein de modes d'approche du mouvement et c'est justement leur diversité et le fait qu'ils soient pas réductibles les uns aux autres qui fait leur intérêt. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'il peut y avoir de plus créatif, quelque part, c'est d'arriver à développer... Enfin, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus créatif, mais une des dimensions vraiment intéressantes de la création chorégraphique, c'est quand, petit à petit, soit un groupe de gens, soit une personne, soit développe soit une variation sur un mode d'approche existant, soit un nouveau mode d'approche, même s'ils n'inventaient aucun mouvement nouveau. Par exemple, il y a des mouvements nouveaux qu'on peut inventer tout en restant dans le mode géométrique. Il y a des pas de danse classique qui ont été inventés dans les années 60, dans les années 70, par exemple, en URSS. Des trucs encore plus virtuoses. Mais on pourrait dire, bon, il y a une forme d'innovation là, mais elle ne change pas la donne, elle ne change pas le mode d'appréhension du mouvement. Alors qu'on pourrait, ce serait une sorte d'expérience de pensée un peu borghésienne, mais on pourrait imaginer quelqu'un qui ferait une variation de danse classique avec les mêmes mouvements, entre guillemets, mais avec un mode d'approche tellement différent que ce serait plus les mêmes, que ce serait à la fois les mêmes mouvements, mais d'autres mouvements. Ce serait plus les mêmes mouvements, en fait, de fait. Et ce serait presque impossible de faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être l'intérêt des pratiques chorégraphiques est plutôt peut-être dans ces différentes focales d'attention qu'ils vont proposer, dans ces différentes manières d'appréhender le mouvement qu'ils proposent, que dans les mouvements particuliers qui en résultent.
Par rapport à ce que tu viens de dire sur la notation Laban, justement par rapport à ces enjeux de notation, il y a eu toujours dans l'histoire des notations de chercher finalement la notation effectivement qui engloberait toutes les possibilités. Et du coup, ce que tu viens de dire là, c'est que au lieu de chercher une notation unique, c'est accepter qu'il puisse y avoir au fond plusieurs écritures différentes. Je me demandais si ce livre n'était pas un livre de traduction.
peut-être, mais alors très très humble, un peu comme un traducteur. Enfin, je veux dire, en acceptant le... Bah, en fait, c'est presque plutôt un... Alors, je sais, pff, c'est compliqué. D'abord, je suis tout à fait d'accord sur l'écriture. Je pense que tout système d'écriture est obligé de s'appuyer sur certains paramètres, au dépend d'autres paramètres. Un système d'écriture qui noterait tout à la fois, ce ne serait plus un système d'écriture. De toute façon, il ne serait plus utilisable. Et puis, ce ne serait pas un système d'écriture, ce serait une reproduction, en fait. Ce serait faire... Pour vraiment faire ça, on serait obligé de refaire les mouvements eux-mêmes. On ne pourrait pas les noter. Donc, à partir du moment où on note, ça veut dire qu'on formalise, ça veut dire qu'on modélise, et on est obligé de modéliser selon certains paramètres et pas selon d'autres. Après, il y a quand même une tentative de modélisation dans ce que je fais. Mais ce que j'essaye de faire, c'est au lieu de tout ramener à une modélisation, c'est de se demander, à partir de l'expérience, en tant que spectateur, en tant que chorégraphe, en tant que danseur, de différentes pratiques chorégraphiques, est-ce qu'on peut trouver des modes de modélisation qui soient les plus fidèles possibles, dans un sens.
Et qui permettent la traduction.
Alors, on peut appréhender un même mouvement en tant que spectateur avec différents modes de regard. C'est-à-dire que, par exemple, mettons que le danseur il ait fait un mouvement que lui, il a défini de manière géométrique. Nous, on peut le regarder de manière mécanique. On peut voir qu'est-ce que ça produit mécaniquement, cette définition géométrique. On peut le regarder géométriquement, etc., etc. Mais on peut le regarder localement, globalement. Mais quand je dis regarder localement, ça veut dire qu'on va focaliser sur une partie du corps, qui n'est pas forcément l'endroit où lui avait focalisé. Peut-être lui, il avait mis une contrainte globale sur la main, mais nous, on se focalise sur la courbe que décrit le genou. Et donc, c'est des outils de regard, c'est des outils d'action et de conception du mouvement. Et il peut y avoir accord ou pas entre le mode de définition de celui qui l'exécute et celui qui le regarde. Et les deux cas peuvent être stimulants. Alors, moi, je pense que ça peut être intéressant, si ça vous intéresse et tout ça, par exemple, si vous lisez la partie sur la danse classique, après d'aller voir un ballet classique et de voir si vous trouvez que c'est stimulant de le regarder de ce mode-là, ou lire le truc sur Trisha Brown et regarder du Trisha Brown. C'est intéressant de voir quand il y a un accord. Mais c'est aussi intéressant de le déplacer, d'utiliser une focale qui n'est pas prévue pour ce mode-là. Donc c'est comme des prismes en fait, ou des filtres, et les filtres vont, c'est comme des filtres qui auraient différents types de tamis, et suivant le tamis on n'obtient pas les mêmes résidus, enfin on n'obtient pas les mêmes choses, et donc c'est intéressant de faire passer tout à travers différents types de tamis. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais...
Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci à vous.
Merci à vous. C'était un mercredi de Montevideo avec Noé Soulier, chorégraphe, qui a présenté Action, mouvement et gestes, un livre publié aux éditions Carnet, Centre national de la danse.